Non, vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel, prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Il est 10h. Le flash Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour, une mise en examen égale démission. Arnaud Lagardère annonce ce matin qu'il abandonne tous ses mandats exécutifs, dont celui de PDG du groupe éponyme. Depuis hier, il est poursuivi pour diffusion d'informations fausses ou trompeuses, achat de votes, abus de biens sociaux et de pouvoir et non dépôt de comptes. Arnaud Lagardère est soupçonné en fait d'avoir puisé dans les comptes de ses sociétés pour financer son train de vie et ses dépenses personnelles pendant plusieurs années. Il a été placé sous contrôle judiciaire moyennant caution de 200 000 euros. Un nouveau record en France, celui du nombre de détenus au 1er avril, selon le ministère de la Justice ce matin. Ils étaient 77 450 détenus, soit 4 370 de plus que sur un an. C'est le chiffre de détenus le plus élevé jamais enregistré en France. C'est le nouvel objectif du gouvernement au nom, dit-il, de l'avenir de notre société et de notre civilisation qui sont en jeu, réduire le temps d'écran des plus jeunes. En janvier dernier, Emmanuel Macron avait mandaté des experts pour qu'ils travaillent sur le sujet. Ils rendent leur rapport aujourd'hui au président de la République, 125 pages, Victor Vasseur. Et sans surprise, les experts, la neurologue Servane Mouton en tête, recommandent l'interdiction pour les plus petits des écrans et une grande modération pour les un peu plus grands, Victor.
Oui, pour reprendre le contrôle de nos écrans, les experts appellent à empêcher tout usage des écrans pour des enfants de moins de 3 ans. C'est une première étape car ils recommandent ensuite entre 3 et 6 ans un accès fortement limité, avec des contenus spécifiques et surtout accompagnés par un adulte. Pour les ados et les pré-ados, la commission propose de n'autoriser le téléphone portable qu'à partir de 11 ans, avec un téléphone sans internet. Entre 13 et 15 ans, le téléphone devra bloquer les accès à tous les réseaux sociaux. Il faudrait alors attendre la majorité avant de pouvoir utiliser TikTok, Instagram et Snapchat. Les experts recommandent que la mention « ne convient pas » au moins de 13 ans face à son apparition sur les smartphones. Il propose aussi de bannir les écrans dans les crèches et dans les classes de maternelle. Reste à savoir comment le gouvernement va se saisir de ce rapport, car la mise en œuvre et le contrôle de certaines mesures paraissent compliquées à appliquer. On ne mettra pas un policier devant chaque foyer, affirme le psychiatre addictologue Amine Benyamina, le coprésident de la commission, conscient de la difficulté de légiférer. Il voit ce rapport comme une forme de guide pour les parents.
Victor Vasseur, merci. Côté sport, il y a des rendez-vous européens. Ligue des champions avant le Borussia Dortmund PSG de demain. Le Bayern Munich reçoit le Real Madrid ce soir pour une place en finale. Ligue européenne de hand, Nantes accueille Berlin ce soir pour les quarts de finale. Allez, il y a des nouvelles des Jeux de Paris. Le rugbyman Romain Ntamack et le footballeur Guillaume Rest porteront la flamme olympique le 17 mai à Toulouse. Qui pour organiser le mondial de foot dames en 2027? Le Mexique et les États-Unis ont retiré leur candidature trop court après le mondial masculin de 2026. Les deux pays préfèrent se concentrer sur 2031 pour une édition qu'ils prédisent record. D'ici là, la Fédération internationale de football doit se prononcer dans deux semaines. Sont encore en lice les candidatures conjointes allemandes, belges et néerlandaises et celles du Brésil. Il y a enfin les Lakers de LeBron James qui sont éliminés dès le premier tour des playoffs de NBA. Par le champion Denver. Voilà, j'aime bien la NBA. Deuxième fois seulement dans sa carrière que LeBron James mange aussi vite. Quid maintenant de son avenir? Le garçon a quand même 39 ans. Et il a dit « Je veux juste penser à ma famille. Je vous le ferai en anglais un jour. Je vais me consacrer à eux. Et puis, dans quelques mois, partir en camp d'entraînement à Las Vegas. » Et oui, parce que ce sera début juillet pour la préparation des Jeux de Paris. Va-t-il jouer un jour avec son fils dont il rêvait, Bronny James Jr., qui lui inscrit à la draft de juin? Eh bien, il en avait parlé depuis, il dit qu'il n'y pense pas trop. Au final, le gamin fera ce qu'il veut. Chonchon le garçon, en même temps, on peut le comprendre, il a perdu hier à la 10h04 sur Inter.
France Inter, 11h, Nagui et Leïla Kadour.
Ce mardi, nous recevons Alex Lutz.
Et nous partirons sur les traces des œuvres d'art spoliées par les nazis dans le film Le Tableau Volé.
La bande originale, tous les jours 11h sur Inter.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel,
Prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
France Inter, partenaire de La Fleur de Buriti, un film de René Nader-Messora et Joao Salavizza. Guidés par leurs rites ancestraux et leur amour de la nature, le peuple indigène Crao ne cesse d'inventer de nouvelles formes de résistance. À travers les yeux de sa fille, Pat Pro va parcourir trois époques clés de l'histoire de son peuple. Un récit vibrant et engagé au cœur de la forêt brésilienne. La Fleur de Buriti, le 1er mai au cinéma, un film France Inter.
C'est Ali Rébillé, c'est grand bien vous fasse. Bonjour Ali.
Bonjour Laetitia Gaillé. Vous semblez ébloui, soit par le nouvel éclairage de ce studio, soit par le charisme de notre invité qui semble tout droit sorti d'un épisode de Grey's Anatomy.
Ouais.
Les deux. Je sens bien ça.
C'est grand bien vous éblouir ce
voilà,
matin.
Voilà, je sens bien ça. À tout à l'heure, 11h.
J'étais pas prête en fait.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Vous souvenez-vous de votre dernier rêve? Un rêve agréable, un mauvais rêve ou bien un cauchemar? Avez-vous rêvé de votre travail, de votre conjoint, de votre moitié, de voyage? Que vous étiez en train de vivre une grande histoire d'amour avec quelqu'un qui n'était pas votre moitié? Que vous étiez un super héros qui sauve le monde? Ou que vous étiez poursuivi par des araignées géantes dans les rues de Los Angeles? Mais au fond, pourquoi rêvons-nous? Quels enseignements pouvons-nous tirer de nos songes, souvent illogiques et décousus? Pourquoi les rêves sont-ils de puissants instruments de connaissance de soi? Et comment les interpréter soi-même sans le recours d'un dictionnaire d'interprétation des rêves? J'attends toutes vos questions sur les rêves au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 en laissant message et note vocale sur l'appli France Inter, sans oublier la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Bonjour Marie-Laure Zonshine.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef de Femmes Actuelles. Alors j'ai rêvé que vous présentiez Grand Bien vous fasse à ma place et que vous étiez ultra pertinente et bien meilleure que moi.
Mais c'est voilà. Un cauchemar pour les auditeurs Ali.
Quel est le menu de vos questions?
Une expérience hors du commun, un scénario abracadabrantesque, une fiction inspirée du réel. Bien souvent, il ne reste plus rien de nos rêves au réveil. Pourtant, on peut apprendre à s'en souvenir et on peut même en changer l'histoire. Mise en pratique dès ce soir Ali, à l'heure du coucher.
Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Notre psychiatre maison, je rêve d'être une petite souris dans vos rêves. Hein. Bon, le menu de vos choses vues.
Eh bien, c'est passionnant les rêves que nous faisons la nuit. C'est émouvant, remuant, révélateur parfois. Mais à mon avis, il y a un truc encore plus passionnant. C'est la vie que nous menons deux jours. On en parle tout à l'heure.
À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Ali Rébéi. Grand Bien vous fasse.
Ce soir, nous allons étudier comment on fabrique les rêves. La plupart des gens croient que c'est simple et facile, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Tout est là. Une délicate combinaison de différents ingrédients, c'est ça la clé. D'abord, une bonne cuillerée de pensée éparse, à laquelle vous ajoutez une pincée de réminiscence de la journée, avec un nuage de souvenirs du passé. C'est pour deux personnes. Amour, sentiment, attachement et autres mots en main, le tout avec quelques chansons entendues la veille, des choses vues et une touche personnelle. Voilà, je crois que ça marche.
La recette des rêves dans le film La science des rêves de Michel Gondry. Bonjour Raoul Jandial, bienvenue. Bienvenue en France, merci d'être avec nous. Vous êtes américain, vous êtes neurochirurgien, chercheur en neurosciences à travers une organisation à but non lucratif. Vous enseignez et vous pratiquez la neurochirurgie à travers le monde. Et vous publiez chez Le Duc un excellent livre richement documenté avec 50 pages de bibliographie. Pourquoi nous rêvons, la révolution des neurosciences au service de notre santé. C'est déjà un best-seller, un succès aux États-Unis et au Royaume-Uni. Alors, Raoul Jandial, est-ce que c'est trop personnel de nous dire de quoi avez-vous rêvé cette nuit?
I dreamt of walking the river.
Que je me promenais le long de la Seine et que j'avais un rôle à jouer dans cette ville magnifique et que je passais à la télé et à la radio également. Et j'ai l'impression que mon rêve se concrétise.
Il se concrétise ce matin, Raoul Jandial. Alors, ce que l'on comprend en lisant votre livre, c'est que le rêve n'est pas une décoration en plus de l'activité sérieuse qu'est le sommeil. Le rêve n'est pas un supplément d'âme. Vous rappelez que c'est une caractéristique vitale de notre esprit.
Mais oui, il me semble en effet que si vous explorez vos rêves, qui sont un aspect fondamental de l'esprit humain, du cerveau humain, on comprend pourquoi on passe tellement, on consacre tellement d'énergie métabolique, pourquoi pendant le sommeil, le cerveau ne dort pas, il utilise des quantités énormes de glucose. Pendant qu'on dort, il y a tellement d'électricité générée que le cerveau a l'air du cerveau éveillé. Ça n'est pas quelque chose qui se produit par hasard, par accident. Moi, je trouve que lorsqu'on regarde ça de près, on dort parce qu'on a besoin de rêver. Ce n'est pas le foie ou les muscles qui ont besoin de dormir, c'est le cerveau qui nous oblige à dormir. Et que fait le cerveau pendant qu'on dort? Il rêve de toutes ses forces. Si nous passons une journée sans dormir, le lendemain, on rêve plus tôt dans son sommeil. J'ai l'impression que le rêve, c'est la fonction essentielle qui permet à notre cerveau de s'adapter, d'être créatif pour faire face aux grands défis du jour.
Avec nous ce matin, Perrine Ruby, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en neurosciences, vous dirigez l'équipe Perception, Attention, Mémoire au Centre de Neurosciences de Lyon. Et avec nous également Guillaume Jacquemont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste scientifique et vous avez publié La science des rêves, sans souvenir, les interpréter, les piloter en poche chez Champ. Est-ce que vous, Guillaume Jacquemont, vous souvenez de votre rêve l'année dernière ?
Je m'en souviens, j'ai également rêvé de venir à la radio. Et c'est pas si étonnant parce que toutes nos préoccupations sont en fait omniprésentes dans nos rêves.
Et Perrine Ruby, vous vous souvenez de votre rêve également ?
Non, je me souviens pas de mon rêve de cette nuit.
Alors pourquoi ai-je oublié mon rêve ce matin en me levant ? Vous l'avez oublié également, Perrine Ruby. J'ai rêvé, je sais que c'était un rêve agréable, et pourtant il s'est évaporé une fois les yeux ouverts. Comment expliquer que nos rêves s'envolent aussi rapidement, Raoul Jandial ?
J'ai ma petite idée là-dessus, et on le voit chez nos patients. Dans le bouquin que j'écris, j'essaie de rassembler des souvenirs de mes patients, mais également d'éléments de littérature scientifique jusqu'à Aristote. L'élément central de notre rêve, c'est qu'on veut éviter de mêler la vie éveillée et la vie rêvée. Il y a des patients qui ont des problèmes psychologiques qui n'arrivent pas à distinguer les deux. Nos gamins, quand ils étaient petits, quelquefois confondent leur rêve et la réalité, il faut leur dire, ça n'est qu'un cauchemar. Donc le cerveau éveillé et le cerveau qui rêve, l'esprit éveillé, l'esprit qui rêve, il faut pouvoir faire la distinction entre les deux. C'est ce qu'on appelle la mémoire autobiographique qui rassemble nos journées de manière construite. Mais le fait que vous ayez oublié vos rêves ne signifie pas qu'on ne peut pas s'améliorer dans son souvenir de ses rêves. Et ceux qui n'arrivent pas à s'en souvenir, et on les compare à ceux qui s'en souviennent tout le temps, vous verrez que dans les deux cas, le cerveau fonctionne avec la même énergie, il y a autant d'électricité en véritable feu d'artifice. Il y a ce même processus dans tous nos cerveaux, même s'il y en a qui s'en souviennent et pas d'autres.
Perrine Ruby ?
What about you, Perrine ? Can you say anything ?
Perrine Ruby ?
Oui. En fait, il y a aussi cette dimension qui fait... Parce qu'en fait, les personnes qui se souviennent souvent de leurs rêves, il y en a beaucoup... c'est très rare qu'elle confonde un souvenir de rêve et un souvenir de la journée qui précède. Donc ça, on comprend pas encore vraiment comment. Du coup, le cerveau est très fort pour dissocier ces deux types de souvenirs qui peuvent être très proches. Et du coup, vraisemblablement, on arrive à faire ça. Je pense qu'une des raisons pour laquelle on se souvient pas systématiquement de ses rêves, c'est que en fait, la chose qui est importante avec le rêve, c'est en fait, sa fonction, ce qu'il est en train de faire. En fait, le rêve qui se déroule la nuit, dans les hypothèses qui sont proposées, une des fonctions, c'est la régulation des émotions. Du coup, il utilise différentes stratégies au cours de la nuit. Du coup, de mélange de souvenirs, de fragmentation de souvenirs, du coup, de changement de perspective. Ça permet de réguler les émotions. Et tout ce processus, en fait, ça crée une histoire qui est bizarre, dont on n'a pas vraiment besoin au réveil. Ce dont on a besoin, c'est ce qui s'est passé pendant qu'on dormait.
Raoul Jandial.
Can you remind me again the question? View one.
C'était quoi la question ?
Vous êtes d'accord avec Perrine Ruby ?
I do, but what I Alors, like to je, do j'ai tendance à être d'accord, mais quand même, je regarde les raisons pourquoi nous rêvons. Je regarde toutes les raisons, c'est-à-dire que les pensées éveillées ne sont pas associées à une seule raison. Alors, est-ce que les rêves sont une répétition, une préparation ? Est-ce que c'est un régulateur d'émotions ? Peut-être, mais je crois que les rêves sont extrêmement complexes et servent une multiplicité de fonctions. Mais ce qui est certain, c'est que c'est le produit d'un cerveau qui est très différent du cerveau éveillé. Dans le cerveau éveillé, on se focalise sur une tâche qui est à l'extérieur, et ce qui domine, c'est le réseau des fonctions exécutives, quelque chose de rationnel, de logique. Dans pendant qu'on rêve, ce cerveau-là ou ce réseau-là est endormi ou en tout cas ralenti, et c'est le réseau imaginatif qui fonctionne. Alors, c'est les deux qui sont, les deux réseaux sont là, les deux cerveaux sont là et interagissent. Alors, ce qui mène surtout les rêves, je crois qu'il nous faut des pensées divergentes, des pensées créatives, émotionnelles, des interactions sociales bizarres, parce que cela nous permet de rester adaptatifs. Le rêve ou le cerveau qui rêve permet de garder tout cela dans le cerveau, alors que le lendemain, on a besoin d'une fraction de tout cela.
Guillaume Jacquemont, vous avez une méthode pour attraper nos rêves avant qu'ils ne s'envolent, pour qu'on s'en souvienne le matin ?
Oui, alors il y a une méthode très simple qui consiste tout simplement à tenir un carnet de rêves. Mm-hmm. Ça, on se rend compte que en une semaine, deux semaines, si tous les matins vous notez vos rêves, les souvenirs de rêves vont augmenter énormément. Et donc, quand vous vous réveillez, c'est aussi important de ne pas passer tout de suite à autre chose, parce que le cerveau est encore dans un état qu'on appelle l'inertie du sommeil, qui est encore un peu particulier, pas très favorable à la mémorisation. Donc, ne parlez pas à votre conjoint, n'écoutez pas la radio, vraiment concentrez-vous sur le souvenir de rêve que vous avez. Essayez de le remonter, si vous avez une image, qu'est-ce qui s'est passé avant, et ensuite notez-le, et très simplement comme ça, vous allez très vite multiplier vos souvenirs de rêve.
Alors, a contrario, Raoul Jandial, pourquoi se souvient-on davantage de nos cauchemars ? Pourquoi est-il si difficile de les oublier ? Vous dites que le cauchemar, c'est l'acte d'imagination ultime.
Nightmares is a big topic. Alors, les cauchemars, c'est tout un sujet. Au moment d'écrire ce bouquin, et j'en ai parlé autour de moi ou auprès de même de mes patients, tout le monde me dit les cauchemars ne peuvent être qu'une erreur. À quoi ça sert ? À mon avis, le cauchemar, enfin, il y a deux types de cauchemars. Vous avez chez les adultes des cauchemars qui sont peut-être un thermomètre psychologique. Lorsqu'il y a des syndromes post-traumatiques, ce sont des flashbacks sur le traumatisme. Si vous avez des nuances de cauchemars, c'est-à-dire que vous avez des cauchemars alors que vous n'avez pas d'expérience négative, peut-être que ce que ce cerveau vous dit, c'est que vous n'êtes peut-être pas tout à fait ajusté à la vie éveillée. Il y a peut-être un signal d'avertissement, et là, c'est quelque chose dont on peut parler à vos thérapeutes ou même à votre médecin. De même que si vous avez, je ne sais pas, une douleur dans le cou, des céphalées, que sais-je, c'est le même type de symptômes. Maintenant, vous avez ensuite les cauchemars des enfants. Là, c'est une conversation très conceptuelle, mais de même que nos enfants apprennent à marcher, à parler, leur cerveau également se cultive. Et les enfants font tous des cauchemars. Et le cauchemar, ça vous réveille, ça marque votre mémoire. Et presque... les enfants, peu à peu, se débarrassent de ces cauchemars. C'est jusqu'à 5, 6, 7 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit, dans le cerveau à cet âge-là ? Eh bien, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'esprit qui se crée. Quand on voit quelqu'un qui sourit, ça ne veut pas dire qu'il nous veut du bien. C'est quelqu'un qui veut se mettre dans l'esprit de l'autre, disons. Et je me demande si l'arrivée des cauchemars, c'est une façon de former le cerveau ou l'esprit de l'enfant, de même que l'arrivée des rêves érotiques prépare l'enfant à l'activité sexuelle à mesure qu'il entrera dans l'adolescence. Le cerveau adolescent devient adulte, mais la chair du cerveau, en quelque sorte, ne change pas. Nos enfants apprennent à marcher, à parler, et ils ont ce développement cognitif qui évolue. Et je crois que les cauchemars servent peut-être justement cette formation-là, créer un sentiment de soi par rapport aux autres, un sens d'identité.
Et vous citez d'ailleurs à propos des cauchemars les très bons travaux de la chercheuse française Isabelle Arnulf. Perrine Ruby, qu'il s'agisse de rêves ou de cauchemars, d'où viennent-ils dans notre cerveau ? Comment naissent nos rêves et cauchemars ?
Ça, c'est une question à laquelle on n'a pas encore vraiment répondu, parce que c'est très difficile, en fait, d'étudier un cerveau rêvant par rapport à un cerveau qui ne rêve pas. En fait, on n'a pas d'indicateur neurophysiologique du rêve encore actuellement. Du coup, quand une personne est endormie, en fait, on n'est pas capable de savoir si elle est en train de rêver ou si elle n'est pas en train de rêver. On ne rêve pas uniquement en sommeil paradoxal, on peut rêver dans tous les stades de sommeil. Donc ça, ça rend la tâche assez compliquée. Par contre, vu la phénoménologie du rêve, c'est-à-dire vu l'expérience extrêmement riche qu'on vit lorsqu'on est en train de rêver, vraisemblablement, la majorité du cerveau est mobilisée. Donc, ce qui serait intéressant de comprendre, c'est quels sont les points communs et quelles sont les différences par rapport à l'expérience vécue dans notre cerveau au cours de la vie éveillée. Et puis l'expérience vécue dans notre cerveau la nuit quand on est en train de rêver, il y a vraisemblablement des différences, mais pour l'instant, c'est vraiment compliqué d'un point de vue méthodologique de répondre à cette question.
Raoul Jandial, dans un rêve, quand je suis heureux, quand je suis en colère, excité, est-ce que les mêmes zones cérébrales sont activées quand je suis éveillé? Est-ce que je ressens le même type d'émotion dans mon rêve et dans la vie réelle?
That is a wonderful voilà question. Une excellente question. Il faut se rappeler ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le cerveau éveillé et le cerveau qui rêve ont tous les deux la même activité électrique. Il y a quelque chose comme 100 milliards de neurones qui s'envoient des produits, des substances telles que la dopamine, la sérotonine, de l'électricité qui se crée et qu'on peut mesurer comme on peut la mesurer à la surface du cœur avec un électrocardiogramme. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon laboratoire, lorsque l'on prend quelques neurones, on les met dans une boîte de pétri, un seul neurone ne fait rien. Mais si vous en mettez trois ou quatre ensemble, il y a une coalescence, et sans avoir à faire quoi que ce soit, sans avoir à les toucher, ils créent de l'électricité, ils créent des liens électriques entre eux. Et c'est une activité qui n'a pas besoin de stimulus. Et bien, de même, le rêve, le cerveau qui rêve n'a pas besoin de stimulus. Les pensées, les émotions dans le cerveau qui rêve actif font intervenir les mêmes neurones que ce qu'on a dans le cerveau éveillé. Et si, dans un rêve, vous fuyez un monstre, les mêmes neurones sont activés que si vous faisiez le marathon de Londres. Et il y a la même électricité, mais la seule différence, c'est que nos corps sont paralysés, donc on ne bouge pas autant.
Une chose importante pour la suite de notre conversation, Guillaume Jacquemont, nous sommes les principaux personnages de nos rêves. Nous sommes les héros de nos propres mises en scène oniriques. 90% de nos rêves nous concernent.
Oui, c'est ça, on se représente très souvent soi-même. On représente aussi d'autres personnages, hein, puisque on sait que, enfin, un des rôles supposés des rêves, c'est aussi de simuler un peu toutes nos interactions sociales. Donc il y a beaucoup de personnages, mais il y a très souvent soi-même. On peut aussi parfois changer de rôle. Il y a 16% des gens qui ont, par exemple, rêvé d'être un membre du sexe opposé. Donc on peut aussi se vivre de l'intérieur ou se vivre un peu d'un point de vue surélevé. Il y a toutes sortes de représentations, mais quand même une dominante, c'est qu'on se représente soi-même dans l'écrasante majorité des rêves. Oui.
Et d'ailleurs, Raoul Jandial, le moi du rêve est-il le même que le moi éveillé ?
So again, that is a massive question. Là, c'est encore une question énorme et on peut se tourner vers la recherche récente qui porte sur le cerveau qui rêve par rapport au cerveau qui a pris des substances psychédéliques. Je me dis qu'on est un petit peu comme si on était au volant d'une voiture qu'on ne maîtrisait pas dans son rêve. Et le sens de soi dans un cerveau qui rêve est complètement habité, c'est-à-dire qu'on est l'acteur mais quelquefois le metteur en scène, alors que dans les substances psychédéliques on a un état dissocié, comme mes patients qui se réveillent après l'anesthésie, ils voient la voiture filer, ils ne sont pas dedans, hein, c'est une dissolution, ce qu'on appelle la dissolution de l'ego. Même une expérience vécue peut sembler onirique, mais au niveau du cerveau, c'est très différent.
Question de Christophe André.
Oui, une question pour Raoul Jandial. J'ai lu dans votre livre quelque chose à la fois étonnant mais logique. C'est que par exemple, en moyenne, on ne rêve lors de notre activité, donc onirique, que de 4 ou 5 personnes. Finalement, il n'y a pas une multitude de personnes. C'est toujours un peu les 4 ou 5 mêmes personnes. Et après, bon, c'est des inconnus, mais des gens non identifiés. Et ça, pour moi, ça rappelle au fond ce côté paradoxal du rêve. À la fois, c'est un univers, c'est une activité avec une grande créativité, un foisonnement de choses insolites, mais aussi finalement très limité, qui puise seulement dans notre quotidien, dans les gens qu'on connaît, les situations qu'on connaît. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment, ce mélange à la fois de créativité et de banalité ?
Thank you for raising that excellent point.
Je vous remercie de soulever cette question, parce que ce que je voulais préciser dans ce bouquin, j'ai essayé d'inclure toutes les informations disponibles un petit peu partout. Informations et pas, ce que vous nous dites vient d'un chercheur qui essaie de voir ce qui se passe quand on réveille les gens qui dormaient. Combien de personnages y avait-il dans vos rêves ? C'est pas ma propre expérience. C'est des données que j'ai compilées. Maintenant, ce que je dis, c'est les mêmes recherches, les mêmes questionnaires, lorsqu'il parle de rêves érotiques, il constate que les personnages sont très étroits. Là, encore une fois, ce n'est pas mon propre travail de recherche. C'est ce que j'ai lu. Les gens qui vous connaissent, les membres de la famille qui apparaissent dans ces rêves érotiques, ou peut-être même des patrons qu'on n'aime pas, des chefs qu'on n'aime pas. C'est un petit peu curieux. C'est pour ça que j'ai mis l'information dans le livre. Alors, l'action est un petit peu folle, mais les personnages sont plus étroits. J'ai essayé de dire pourquoi c'était le cas d'un point de vue neuroscientifique.
Question de Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle.
En début d'émission, Ali nous a demandé, Raoul Jandial, qui se souvenait de ses rêves. Alors vous, messieurs, vous avez répondu par une réponse précise. Et Perrine Ruby et moi-même, je l'avoue, ne nous en souvenions pas. En revanche, il a été prouvé, c'est assez étonnant, parce que c'est un peu un contre-exemple, que les femmes, en moyenne, ont une fréquence de rappel des rêves plus élevée que les hommes. Est-ce que ça tient à la mémoire, à la capacité de stocker des informations ? Pourquoi les femmes auraient un rappel plus fréquent et plus régulier de leurs rêves que les hommes?
Alors, je ne suis pas expert en la matière, la distinction entre le cerveau féminin ou masculin, mais peut-être que les femmes sont simplement plus intelligentes.
Perrine Ruby, peut-être.
Oui, je voulais simplement préciser qu'en fait, cet effet est très faible. Il est significatif, mais l'ampleur de l'effet est très faible. Donc, je ne suis pas persuadée qu'il y ait vraiment une différence de fonctionnement. On peut aussi expliquer ça par des raisons culturelles. Donc je ne pense pas que ça mérite plus de temps sur ce sujet-là. Il y a des différences plutôt de contenu qui sont intéressantes, qui peuvent être aussi expliquées par la culture. Mais je voulais revenir juste un instant sur les cauchemars.
On y reviendra tout à l'heure, Perrine Ruby, sur les cauchemars. Okay. On va revenir sur les cauchemars tout à l'heure, parce qu'il est temps déjà d'écouter le disque. Dans un instant, nous continuerons à explorer les grandes fonctions du rêve, fonctions thérapeutiques, créatives, prémonitoires. Ce sera juste après avoir écouté John Warwick, What the World Needs Now is Love, une chanson sortie en 1965, 10h28 sur France Inter.
That there's just too little of what the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. Enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is
on vient d'écouter John Warwick, What the World Needs, The World Needs Love.
Cette nuit, j'ai encore rêvé de toi.
Grand bien vous fasse.
J'ai rêvé que maman, elle avait plein de boutons et c'était la peste. Et du coup, elle était morte et je me mariais avec mon papa.
Sur France Inter.
Pourquoi rêvons-nous? Quelles sont les grandes fonctions du rêve? C'est notre thème ce matin avec le neurochirurgien et neuroscientifique américain Raoul Jandial, avec la neuroscientifique Perrine Ruby, avec le journaliste scientifique Guillaume Jacquemont.
Je rêve souvent que mes dents tombent. Alors ça, c'est un truc qui revient assez souvent. C'est assez bizarre. Je rêve tout le temps que mes dents tombent et que j'ai plus de dents et qu'il ne pousse plus que les gencives.
Que je nage, alors ça dépend. Ça peut être de l'eau claire, de l'eau trouble. Ça peut être que je parle dans de l'eau, que je vis dans de l'eau. C'est assez étrange.
Je suis sur un viaduc, je roule doucement et d'un seul coup, le pont s'écroule. Et je plonge et je n'arrive pas à remonter.
Je pars au galop, à cheval sur une plage, par exemple.
Il revenait régulièrement quand j'étais gamine, c'est-à-dire qu'un monstre me chatouillait. Ça me faisait horriblement peur, je me réveillais et il est revenu régulièrement ce rêve-là. J'ai jamais compris ce que c'était et c'était à chaque fois que je dormais sur le côté gauche. Donc pendant très longtemps, de nombreuses années, je dormais plus sur le côté gauche pour ne pas refaire ce rêve.
Extrait de micro-trottoir dans l'émission Tout un programme sur France 2 en 1999. Alors, docteur Raoul Jandial, je rappelle que vous publiez « Pourquoi nous rêvons, la révolution des neurosciences au service de notre santé ». Nos rêves suivent des règles, vous l'écrivez dans votre livre, en dépit de leur aspect décousu, sans queue ni tête, comme dans cet extrait. Pourquoi nos rêves sont-ils souvent surréalistes et saugrenus ? Alors qu'ils suivent des règles.
Yeah, let's discuss that. So first
ça, c'est quelque chose qui mérite d'être discuté, en effet. Alors, il faut voir que vos rêves sont complètement dingues, les miens aussi, les vôtres aussi. Mais quand on examine des dizaines de milliers de rêves, on voit des grandes tendances. Il y a des rêves universels, les rêves érotiques, les cauchemars. J'ai pas besoin d'expliquer à quelqu'un ce qu'est un cauchemar. Ensuite, vous avez des rêves très courants, le verbe de tomber, d'être pourchassé. Ça, c'est des rêves qui persistent depuis des siècles. Et ensuite, vous avez des rêves très inhabituels. Faire des mathématiques dans ces rêves, ça peut arriver, mais c'est très rare. Quand on voit des milliers de cas, on voit que c'est très très rare qu'on rêve de mathématiques. Alors, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est voir ce que sont ces grandes tendances des rêves, en s'appuyant sur la recherche, et voir de l'autre côté ce qui se passe généralement dans l'activité cérébrale, pour faire un lien entre le type de rêve et l'activité cérébrale. Le cerveau qui rêve n'a plus la fonction, en tout cas, à moins la fonction exécutive, surtout dans le contexte préfrontal. Bon, c'est ce qui se passe juste derrière le front, là, comme si on avait des cornes. La partie latérale, c'est la partie qui fait des maths quand on est éveillé. Et cette partie-là est, disons, amoindrie pendant qu'on rêve. Et il y a très peu de rêves, pas jamais, mais très peu de rêves de mathématiques. Je me suis dit, bah, justement, il y a des parties du rêve qui s'expliquent par la neuroscience, le fait que certaines parties du cerveau soit moins active pendant qu'on rêve, pendant qu'on dort. Et lorsque je me réveille avec ayant compris quelque chose, tout n'est pas expliqué dans le rêve, mais le rêve m'a aidé à y arriver.
Guillaume Jacquemont, je rappelle que vous avez publié La science des rêves.
Oui, je voulais réagir par rapport à ce que Raoul disait sur le fait qu'on faisait pas beaucoup de maths en rêve parce que les zones cérébrales qui assurent ça sont très peu active. Et en effet, il y a une expérience qui a essayé de quantifier ça en proposant à des rêveurs lucides, donc qui sont capables de contrôler leurs rêves, de faire des maths. Et ils ont conclu qu'ils avaient à peu près un niveau d'école primaire et qu'ils n'arrivaient pas à dépasser ça. Donc on n'est pas très bon pour faire des maths en rêve. Et il y a en effet une partie de l'activité des rêves qui s'explique par des variations d'activité cérébrale. On sait aussi que les zones émotionnelles, par exemple, sont très, très actives pendant les rêves du sommeil paradoxal. Donc on arrive quand même à voir des règles comme ça, de par l'activité cérébrale, de par aussi de la vie des gens. Ce qu'on sait, c'est que les rêves mixent vraiment des mélanges de tout ce qu'on a vécu dans les jours précédents, voire un peu avant. Et une façon d'expliquer les bizarreries, une première façon déjà, je trouve, c'est d'essayer de trouver quels éléments tel ou tel élément du rêve nous rappelle. Et rien qu'avec ça, vous allez comprendre quelque chose. Par exemple, vous avez rêvé de votre frère qui sortait un sabre laser, ben vous allez voir que vous avez regardé Star Wars la veille et que vous avez croisé votre frère. Donc déjà, en faisant des petites choses simples comme ça, on arrive à trouver un peu de sens dans ce qui est apparemment une forme de chaos.
Raoul Jandial ?
Those are excellent points,
voilà and I welcome des observations très justes et tout ce qui va dans ce sens m'intéresse à toutes ces observations. Les rêves sont des choses très personnelles, bien sûr, merveilleuses. Le rêve lucide, le fait qu'on puisse faire un peu de mathématiques dans ses rêves, bon, ça peut exister. Et en fait, ça va dans le sens de ce que je disais. Le rêve lucide que vous évoquez, hein, c'est ce qui se passe, c'est que je suis en train de rêver et je maîtrise mon rêve. Il y a une certaine sensation de conscience du rêve. Alors, quand on se réveille, en général, on dit « Ah, oh, ben, ce n'était qu'un rêve ». Mais le rêve lucide, vous êtes conscient que vous rêvez. Et lorsqu'on regarde les cerveaux de ces rêves lucides, il y a une partie de l'activité qui est amoindrie, normalement, dans le réveil, qui se réveille, justement, par exemple, la capacité de faire des mathématiques. Alors, vous dites qu'on peut faire un peu de mathématiques grâce au rêve lucide, et ça va dans le sens de ce que je disais, parce que le rêve lucide, c'est un état hybride entre le rêve à 100% et l'éveil à 100%.
Périne Ruby.
Oui, moi, ce que je trouve d'important de rappeler ici, c'est qu'en fait, c'est très rare qu'on rêve exactement d'un souvenir tel qu'on l'a vécu à l'éveil. En fait, la grande particularité du rêve, c'est qu'il modifie nos souvenirs, qui modifie les règles de comment se passe la vie au cours de la vie éveillée. Et je pense que c'est dans cette caractéristique qu'il faut essayer de chercher une éventuelle fonction. Et du coup, ça colle assez mal avec l'idée de la consolidation de la mémoire. Il y a beaucoup de chercheuses et de chercheurs qui ont essayé de tester si de rêver d'un apprentissage récent améliorait les performances. Ça marche pas très bien. Il y a peu de résultats qui vont dans ce sens-là. Par contre, ce qui va très bien avec les caractéristiques du rêve, c'est le fait d'essayer de changer de perspective, de voir les choses autrement. C'est pour ça que quand on rêve de quelque chose qu'on a vécu, souvent c'est de manière fragmentaire, en fait. C'est simplement un élément, c'est un personnage, c'est un morceau de la scène. Et puis, c'est mis dans un autre contexte, avec une autre perspective. Certaines fois, les rôles sont inversés. Et ça permet vraisemblablement au cerveau endormi de retravailler la situation pour avoir un ressenti, un rendu émotionnel différent. Donc ça colle très bien avec un rôle du rêve dans la régulation émotionnelle. Du coup, j'ai essayé d'expliquer ça dans un livre que j'ai publié qui s'appelle « Rêver pendant le confinement », du coup, qui a permis de rapporter de très nombreux exemples de rêves qui ont été faits pendant cette période qui était très anxiogène et qui permet de montrer comment, en fait, le cerveau endormi vraiment s'occupe prioritairement de ce qui nous préoccupe dans notre journée, donc des choses qui sont émotionnelles. Et du coup, les mécanismes qui sont utilisés par le cerveau endormi pour réguler les émotions, vraisemblablement, ils sont de trois ordres. Il y a le fait d'exprimer l'émotion pour l'évacuer. Du coup, ça peut faire des rêves qui sont très négatifs si on était dans une situation très angoissante la journée. Mais il y a aussi un mécanisme de compensation. Pendant le confinement, il y a des gens qui se sont souvenus plus que d'habitude de rêves très positifs. Et du coup, ça va très bien avec l'idée que, en fait, pour compenser un affect très négatif pendant la vie éveillée, on peut créer des émotions positives au cours de la nuit. Et puis, il y a aussi le côté métaphorique du rêve qui permet de transformer un souvenir pour lui donner une nouvelle connotation émotionnelle.
Périne Ruby, nous allons essayer de vous reprendre au téléphone parce que la communication est bien trop mauvaise. Raoul Jandial, les rêves ont donc des fonctions thérapeutiques. Les rêves, ce sont des thérapeutes nocturnes ou à l'heure de la sieste aussi. Ce sont des thérapeutes, les rêves.
I think making that assertion.
Alors, c'est quand même un peu difficile de prouver que les rêves soient des thérapeutes. Les rêves ont des dimensions multiples, de même que nos pensées éveillées. Alors, il y a effectivement des rêves dont on se souvient très bien, et ce sont justement les cauchemars. Et ça, ce rêve-là, ce rêve qui nous revient, enfin, c'est ce cauchemar qui est unique en son genre, ça, c'est, on s'en souvient, on a l'impression que c'est à ça que ça sert, qu'on s'en souvienne. Donc, les gens disent que peut-être que c'est un travail de traitement affectif, émotionnel, mais dans les syndromes post-traumatiques, en fait, le cauchemar fait revivre la douleur. Donc, on peut difficilement dire qu'il y a quelque chose de thérapeutique là-dedans. Mais alors, ce que l'on peut dire, ce que j'ai pu voir, c'est que lorsqu'il y a, on rêve davantage vers la fin de la nuit, au début du matin, il y a plus d'activité, de sommeil paradoxal, des rêves plus disons, plus probants, on voit que l'amygdale a moins d'activité. C'est la région des angoisses qui a une dimension émotionnelle importante. Alors peut-être qu'il y a une thérapeutique nocturne, mais en même temps, ça peut jouer le rôle contraire. Les rêves peuvent être dangereux, justement, pour les gens qui souffrent de schizophrénie ou de syndrome post-traumatique.
Mais nos rêves nous permettent de digérer les émotions agréables et désagréables que nous avons vécues au cours de la journée.
Oui, alors, oui, ça semble être le cas. Et moi, ce qui me fait penser cela, c'est que la clarté mentale qui suit une nuit bien passée, ce n'est pas que nos membres ou nos organes ont eu leur nuit de repos, c'est que le cycle nocturne a servi effectivement cette fonction d'apaiser l'esprit, de créer une espèce de résolution émotionnelle.
Guillaume Jacquemont.
Oui, alors c'est en effet une des théories sur les fonctions des rêves que ça joue ce rôle de thérapeute nocturne. Et ça a un côté un peu contre-intuitif, je trouve, parce que on se dit, c'est pas en ressassant tout ce que j'ai vécu d'horrible dans la journée que je vais le digérer. Mais en fait, le cerveau qui rêve a trouvé plusieurs astuces pour atténuer ça. D'une part, il y a la concentration de certaines substances du stress qui se raréfient au moment du sommeil.
L'adrénaline, par exemple.
La noradrénaline. Donc, on les revit, mais avec un impact émotionnel moins fort. Donc, ça permet quand même de s'y habituer et de commencer à les digérer. Et il fait aussi toutes sortes de mélanges. C'est-à-dire qu'il va mélanger des éléments très émotionnels avec des éléments un peu plus neutres. Et tout ça va faire que petit à petit, on va s'y habituer et on va un peu digérer ces émotions.
Et donc, Guillaume Jacquemont, les rêves ne sont pas un simple replay de notre journée, une réplique exacte d'événements récents.
Non, ils ne sont pas un simple replay, ça a été quantifié, ça y a moins de 2% des rêves qui sont des replays exacts d'événements, mais c'est des bouts d'événements qui sont mélangés à d'autres, plus ou moins anciens, plus ou moins récents. C'est un grand mélange.
Raoul Jandial, est-ce que les rêves ont le pouvoir de révéler notre bien-être? Est-ce que ce sont des signaux éventuels sur notre état de santé, sur des maladies, des pathologies? Est-ce que les rêves pourraient-ils avoir des vertus préventives? Par exemple, rêver de dents qui tombent, est-ce que ça peut être un indicateur d'une irritation dentaire pendant le sommeil?
Well, that, That's a big question, but I think we have more
grande question, mais je crois que on en sait un petit peu plus maintenant qu'autrefois. Lorsque l'on rêve de dents qui tombent, c'est un rêve assez commun qu'on a rencontré à travers les cultures et on n'a pas trop exploré cela. Il y a une étude quand même qui a été menée en Israël qui s'intéresse à cela. Alors il y a peut-être des il n'y a rien de très profond là-dedans généralement d'après ce qu'on a pu voir, mais le fait qu'un rêve peut être prémonitoire ou être une alerte. Alors, il y a deux éléments que je pourrais apporter à la discussion. D'abord, vous avez l'arrivée des cauchemars. Bon, ça, c'est quelque chose, surtout lorsque les cauchemars deviennent plus graves chez les adultes qui n'en ont pas normalement, c'est peut-être effectivement un thermomètre psychologique. La licorne scientifique, c'est quelque chose qui m'émerveille toujours et qu'on peut étudier. C'est ce qu'on appelle le trouble du comportement du sommeil paradoxal. C'est-à-dire qu'on passe à l'acte, en quelque sorte. Alors là, effectivement, il y a peut-être une prédiction de l'avenir. Vous avez des hommes qui ont la cinquantaine, qui commencent à réaliser leurs rêves en attaquant leur partenaire de lit parce qu'ils pensent être attaqués, eh bien, 15 ans plus tard, ces gens-là ont la maladie de Parkinson. Donc, le fait que le cerveau se détériore, il y a peut-être un signal d'alerte qui se traduit au niveau des rêves 15 ans plus tôt. Il y a peut-être de ça. Alors, c'est le seul exemple qui me vient, mais il y a effectivement une prédiction là qui est liée à la santé.
À approfondir avec des recherches médicales. Question de Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle.
Oui, Raoul Jandial, je reviens, vous avez prononcé le mot sur les rêves prémonitoires. Je fais allusion à cette expérience que nous avons absolument tous vécue. Rêver d'un cousin éloigné, d'un collègue perdu de vue, d'un copain de lycée, et soudain le croiser dans la rue ou recevoir un coup de fil quelques heures plus tard. A-t-on une explication ?
Alors, je n'ai pas d'explication à apporter. Alors, ça dépend peut-être de savoir si vous voulez retrouver votre cousin ou pas.
Guillaume Jacquemont, qu'est-ce qu'on sait sur les rêves prémonitoires ?
Bah, ce qu'on sait, c'est que les rêves sont une sorte d'immense simulation de notre vie et qu'on passe peut-être 5-6 heures par nuit à rêver. Donc forcément, dans tout ce qu'on simule, il y a des choses qui vont se produire. Et il y a par exemple le mathématicien Nicolas Gauvry qui s'est amusé à faire un petit calcul et qui avait prédit que 72 000 personnes avaient fait un rêve prémonitoire de quelqu'un qui allait mourir dans la semaine suivante. Mais beaucoup de gens meurent et on rêve beaucoup. Donc statistiquement, forcément, on a cette impression-là d'être tombé juste de temps en temps, quoi.
Allez, il est 11h moins le quart, l'heure de retrouver les choses vues de Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre ?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute ?
Christophe André.
Chaque matin, une de mes amies artistes note un des rêves qu'elle vient de vivre et l'illustre d'un dessin aussi beau qu'énigmatique. Puis, elle publie tout ça sur Instagram et le résultat est fascinant. Un peu embarrassant parfois, tant elle s'y livre avec sincérité. Elle m'a expliqué sa méthode pour ne pas oublier ses rêves, sortir tout doucement du sommeil, les laisser remonter à son esprit et surtout les noter tout de suite, dès le réveil. Je m'y suis entraîné, j'ai pratiqué quelques temps, ça marche très très bien. Mais au bout d'un moment, j'ai laissé tomber. Il y a tellement d'activités intéressantes à observer dans notre cerveau. Et moi, mon truc, c'est plutôt ce qui s'y passe quand nous sommes éveillés. Voir vivre les autres humains, tenir un journal pour comprendre mes émotions et mes réactions, méditer. Et pour ce qui s'y passe la nuit, je préfère laisser faire ma cervelle et observer le résultat sans trop chercher à creuser, un peu comme un jardin que je laisserai vivre à l'état naturel sans y intervenir. Bon, c'est vrai quand même que c'est un univers incroyable. Je suis d'accord avec ce qu'en disait l'humoriste Pierre Dac. Pardon. Les rêves, c'est pour ne pas s'ennuyer en dormant. Effectivement, on ne s'ennuie jamais en rêvant. Et parfois, vient un songe qui nous marque pour toujours. C'est ce que le psychanalyste Jung appelle les grands rêves. Il assure qu'on n'en ferait que quelques-uns dans sa vie. Pour ma part, je me souviens très précisément de mon grand rêve. Je l'ai vécu vers l'âge de 10 ans. Ça se passe dans une immense pièce sombre, avec des femmes qui marchent en silence dans des coursives qui me surplombent. Moi, je suis en bas, tout seul, allongé sur de grands lavabos collectifs comme ceux d'une école ou d'une colonie de vacances. J'ai froid. Je me demande ce que je fais là tout seul, ce que font ces femmes et surtout ce qui va m'arriver. Mais je ne cherche pas à fuir, à agir, à partir. J'attends, sans peur, calmement, avec l'impression que quelque chose d'important va advenir. Bizarre, hein ? Le plus bizarre, c'est que je m'en souvienne aussi précisément depuis tant d'années. Bon, pour l'interprétation, ne comptez pas sur moi, je vous laisse la faire si ça vous amuse, mais vous feriez mieux de vous plonger dans vos propres grands rêves. Hein. Vraiment, j'adore les rêves, faire les miens, écouter ceux des autres, mais j'adore de loin. Comme j'adore la poésie hermétique, celle de Saint John Peirce, par exemple, qui reçut le prix Nobel de littérature en 1960. Voici un passage. Écoute, ô nuit, dans les préaux déserts et sous les arches solitaires, parmi les ruines saintes et l'émiettement des vieilles termitières, le grand pas souverain de l'âme centenière, comme aux dalles de bronze où rôderait un fauve. Grand âge, nous voici. Prenez mesure du cœur d'homme. C'est beau, n'est-ce pas ? On peut en rester là et laisser courir notre esprit à partir de ces images et de ces mots, ou bien on peut rentrer dans l'exégèse et décoder peu à peu, puisque c'est un poème en réalité sur le vieillissement. Pour ma part, bien souvent, j'en reste là. La musique des mots, la poésie des rêves me suffisent. C'est passionnant les rêves que nous faisons la nuit, c'est émouvant, remuant, révélateur parfois, mais il y a un truc encore plus passionnant, c'est la vie que nous menons de jour. Pour ma part, je préfère réfléchir à mes jours qu'à mes nuits, comprendre la veille plus que le sommeil. Je me sens proche du philosophe Diogène quand il dit « Nous sommes plus curieux du sens de nos rêves que des choses que nous vivons éveillées. » Oui, de mes deux cerveaux, cerveau de jour, cerveau de nuit, je préfère jardiner le premier et laisser le second vivre sa vie sauvage, non sans admirer sa créativité.
Raoul Jandial, comme le rappelait Christophe André, les rêves, ce n'est pas pour s'ennuyer en dormant.
Alors, vous savez, il y a certains rêves ou des pensées nocturnes qui sont statiques, qui ne sont pas complexes. Vous avez des rêves qui, dont le sens est clair et qui sont liés à nos angoisses. On a un examen le lendemain et puis on rêve que le réveil ne sonne pas ou qu'on donne une conférence tout nu ou que sais-je. Bon. Donc, vous avez des rêves de genre. Les gens en fin de vie ou les femmes enceintes ont des des événements importants qui les attendent, et donc les cerveaux éveillés et les cerveaux endormis sont un peu identiques à ces moments-là. Moi, par rapport aux rêves, je pense qu'il faut surtout regarder l'aspect hyper émotionnel ou hyper visuel, parce qu'il y aura un sens métaphorique ou symbolique, parce que le cerveau est hyper visuel, hyper émotionnel, hyper imaginatif. L'éclat ou le message qui vient de cet état cérébral, à mon sens, c'est quand même une fenêtre qui est ouverte sur mon esprit, et j'essaie d'intégrer cela dans ma pensée diurne, justement.
Allez, tous les épisodes des choses vues de Christophe André à podcaster sur l'appli France Inter. Et on s'intéresse dans quelques instants sur l'interprétation des rêves. Ce sera juste après avoir écouté Malik Djoudi qui interprète Vivant.
Je suis enfin vivant. Vivant comme je l'aime. Des questions surtout, les doutes qui s'ajoutent.
Malik Djoudi interprété Vivant.
Cette nuit, j'ai fait un cauchemar.
Grand bien vous fasse.
Bah, j'ai rêvé que j'allais faire des courses toutes nues dans un magasin, que tous les gens me regardaient, qu'il y avait une vendeuse qui me chassait à coups de pommes de terre pourries.
Sur France Inter.
Et ce matin, pourquoi rêvons-nous? Quelles sont les grandes fonctions du rêve? Alors, docteur Raoul Jandial, les rêves ont ce pouvoir de libérer notre créativité. Le processus créatif ressemble beaucoup à celui du rêve?
Mais oui, tout à fait. La créativité, d'ailleurs, s'appuie sur ce qu'on appelle la pensée divergente. Pendant la journée, c'est la pensée convergente qui domine. Si vous voulez réparer un moteur, il faut une pensée convergente. Mais si vous voulez concevoir une voiture, il faut une pensée divergente. Et les processus naturels qui interviennent dans le cerveau qui rêve, c'est les associations un petit peu disparates, des scénarios émotionnels inattendus. Et à mon sens, lorsqu'on est éveillé et que tout d'un coup, on se rend compte de quelque chose, on a trouvé la solution à un problème, c'est pas parce qu'on a bu davantage de café ou qu'on a passé plus de temps devant l'écran de son ordinateur, c'est parce que le processus de rêve vous apporte de nouvelles idées dont certaines seront utiles.
Et vous insistez sur l'endormissement qui est une porte d'accès privilégiée vers la créativité pour vous.
Well, I don't insist upon Alors, it, but sans insister vraiment là-dessus, ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'on passe de l'état éveillé à l'état de rêve, la transition n'est pas très clair. C'est pas en une milliseconde. Il y a une zone floue pendant une quinzaine de minutes. C'est Thomas Edison qui en a déjà parlé, même Salvador Dali aussi, qui ont signalé, ou dans le film Inception de Christopher Nolan, cette neuroscience peut mesurer l'électricité du cerveau et montrer qu'on est en partie éveillé, en partie endormi. Cette transition, c'est ce que j'appelle l'entrée dans le sommeil, l'endormissement. Mais quand on se réveille à l'autre côté, c'est également un état un peu flou. Alors, il y en a qui disent qu'au moment de l'endormissement, on peut avoir des pensées significatives.
Oui, Guillaume Jacquemont. Cette entrée dans le sommeil, c'était il y avait des grands artistes qui étaient conscients de ça. Salvador Dali, par exemple, qui, quand il faisait une sieste, mettait deux boules d'étain dans ses mains pour que ça le réveille juste après qu'il soit rentré dans le sommeil et qu'il en extrait des idées. Donc,
la boule d'étain qui tombait par terre et qui le réveillait.
Voilà, c'est ça. Et du coup, ça lui permettait de profiter juste de ces quelques secondes d'endormissement, qui sont une phase d'endormissement où on sait qu'il y a plein de bizarreries qui s'invitent. C'est une phase assez luxuriante du rêve. Et récemment, il y a une expérience française justement qui a vérifié ça et qui ont laissé des participants faire une sieste et qui les ont réveillés juste après. Et juste avant, ils avaient découvert une énigme et ils trouvaient plus facilement l'énigme au réveil. Donc, ils confirmaient ces méthodes un peu ancestrales que c'était vraiment une période propice à la créativité.
Pour terminer, docteur Raoul Jandial, vous avez quelques pistes pour interpréter ces rêves sans avoir recours à un dictionnaire d'interprétation des rêves? Quels sont vos conseils pour nous aider à les interpréter?
D'après ce que je crois savoir, c'est que les dictionnaires ne fonctionneront pas parce que notre cerveau qui rêve est unique en son genre, unique à nous-mêmes. Le pont dont je rêve sera très différent du pont dont vous rêvez qui n'aura pas le même sens. Donc ça, je crois que c'est assez clair intuitivement. Alors ma propre approche, et j'en ai parlé dans le dernier chapitre de mon livre, on essaye d'identifier les rêves qui méritent d'être interprétés. Il y a des rêves évidents, des rêves de genre, des rêves universels comme les cauchemars ou les rêves érotiques. Et puis vous avez des rêves qui n'ont aucun sens et qui n'ont pas non plus d'émotions profondes. Là, c'est des rêves dont on n'a pas besoin. C'est comme des pensées qui n'ont pas d'incidence. Mais parce que le rêve est hyper émotionnel, hyper visuel, s'il y a un rêve qui a une émotion dominante avec une image centrale qui insiste, on essaie de s'accrocher à ce rêve le matin et avant de vérifier son mail ou Instagram, on laisse ce rêve perdurer. Cet instant de réflexion est une bonne habitude qui est très facile à prendre. Et là, le cerveau, avec son état de rêve très particulier, apporte une information qui mérite d'être explorée.
Pour résumer, il faut commencer donc par examiner l'émotion dominante, son intensité émotionnelle, et puis deuxième étape, examiner l'image centrale de ce rêve. Merci beaucoup, Perrine Ruby, désolé pour la très mauvaise connexion ce matin. Merci Guillaume Jacquemont, on peut lire avec profit votre livre La science des rêves. Merci beaucoup docteur Raoul Jandial d'être venu dans cette émission. Je conseille vraiment ce livre passionnant, richement documenté, très solide. Ça s'appelle Pourquoi nous rêvons, la révolution des neurosciences au service de notre santé, et c'est publié chez Le Duc. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans notre studio en France. Et merci au Tic et Tac du mardi, Marie-Laure Sunshine et Christophe André. Demain, pourquoi le sport, les sports collectifs et individuels font du bien aux jeunes.
France Inter présente, on ne plaisante pas avec l'humour.
La tournée des humoristes France Inter, c'est reparti. Oui, la fine fleur de l'humour du service public, celui qui vous met en joie chaque jour, is back. Oui, l'humour, tous les humours, même l'humour drôle.
On ne plaisante pas avec l'humour, le 24 mai à Clermont-Ferrand et le 23 juin à Lyon.
Au casting, il n'y a que du bon et même de l'excellent.
Toutes les infos sur franceinter.fr.
Ah, ce petit appartement, vous l'avez acheté, retapé, vous l'avez prêté à votre petit-neveu et puis vous pensiez le revendre, mais en fait, non. Vous l'avez loué à Madame Martin. Et à Matou aussi. Vos biens immobiliers ont plusieurs vies, mais nous, on ne peut pas le deviner. Alors pensez à nous dire qui occupe vos logements sur impots.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
France Inter lance l'école des Odyssées, un grand concours national de création de podcasts en partenariat avec Belin Éducation.
Vous êtes professeur de CM2 ? Alors embarquez vos élèves dans un projet pédagogique et ludique avec l'école des Odyssées. Choisissez un personnage haut en couleur et fabriquez votre Odyssée tout au long de l'année. La classe gagnante enregistrera son histoire dans les studios de France Inter.
Inscrivez-vous dès maintenant sur franceinter.fr.
En route, mauvaise troupe !
Avec la MRC.